Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Nasser Moussaoui. Le coronavirus a fait ressurgir dans le débat public la question du temps de travail. Dès le mois d'avril, le président du MEDEF estimait qu'il faudrait travailler un peu plus, tandis que des voix s'élevaient pour demander au contraire un meilleur partage du travail entre salariés et chômeurs. Face aux centaines de milliers d'emplois fragilisés par la pandémie, le puissant syndicat allemand IG Metall propose même de passer à la semaine de 4 jours. Alors la réduction de la durée du travail est-elle une solution contre le chômage? Pourrait-elle permettre de relancer la croissance ou faut-il au contraire travailler plus pour sauver l'économie? Voilà les questions qui vont animer notre débat en compagnie d'Annie Jolivet, économiste, chercheuse au Centre de Travail et de l'Emploi du CNAM, et de Bertrand Martineau, également économiste, conseiller à l'Institut Montaigne. En fin d'émission, racontez-moi l'écho, direction la Russie des années 90 avec Sankia de Zakhar Prilépine.
Quand je nous regarde et je nous compare à nos voisins ou aux autres pays de l'OCDE, on travaille moins par rapport à la vie tout entière et on travaille moins rapporté à l'année. Et toutes les études économiques le montrent, le différentiel que nous avons de création de richesses et donc de revenus pour nos concitoyens, il est lié à ce travail en moins.
Ce qui est sûr, c'est qu'augmenter le temps de travail au moment où 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, où il va y avoir des centaines de milliers, malheureusement, de chômeurs supplémentaires, c'est totalement débile, totalement idéologique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de travail pour que tout le monde puisse en bénéficier, notamment des jeunes qui vont arriver et des jeunes diplômés ou non diplômés qui vont arriver sur le marché du travail. Que le signal soit donné que ceux qui ont un travail devraient travailler plus, c'est quand même totalement contradictoire avec l'ambition d'avoir du travail pour tous.
Annie Jolivet et Bertrand Martineau, bonjour.
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 Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre Emmanuel Macron à l'issue du grand débat en avril 2019, puis Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, le 4 septembre dernier. D'abord, pourquoi faut-il relancer, selon vous, le débat sur le temps de travail dans cette période marquée par un ralentissement inédit de l'activité, Annie Jolivet?
Alors, j'aurais préféré que vous posiez d'abord la question à Monsieur Martineau. Non, de mon point de vue, je ne trouve pas très opportun de relancer le débat sur le temps de travail maintenant. Surtout si on met en conflit l'idée d'augmenter le temps de travail par rapport au fait de le diminuer. Je pense que les choses sont beaucoup plus, à différencier selon les secteurs d'activité, selon les effets du confinement, selon les possibilités de relance propres à chaque secteur. Donc, voilà, un débat global me semble un peu compliqué.
Est-ce que c'est un moment opportun pour vous, Bertrand Martineau, vous qui avez rédigé une note pour l'Institut Montaigne qui propose une hausse du temps de travail?
Oui, c'est un sujet qui n'est pas immédiatement d'actualité pour des raisons évidentes. Aujourd'hui, il y a de larges secteurs de l'économie pour lesquels l'urgence est plutôt de diminuer le temps de travail. C'est la question de l'activité partielle notamment. Mais d'un point de vue un peu prospectif, cette crise en fait démontre que la France accroît son décrochement par rapport aux autres pays. Quels que soient les indicateurs qu'on prend d'ailleurs, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, de PIB par tête, que ce soit en termes d'exportation, que ce soit en termes de création de richesses de manière générale, en termes d'innovation, notre pays est en train de décrocher, donc ça date pas d'hier, mais la crise accélère cette tendance. Et donc d'un point de vue prospectif, comme on va avoir en fait dans les prochaines années une crise économique difficile, il va falloir redresser l'économie, une partie seulement, bien entendu, c'est la question effectivement du temps de travail, considéré d'ailleurs pas uniquement dans la semaine, mais sur l'année et sur l'ensemble de la vie professionnelle.
Alors Annie Jolivet, qu'est-ce que vous répondez à ce premier argument d'un décrochage de la France au niveau international, d'une baisse de la compétitivité? Il y a eu peut-être une baisse de la productivité réelle pendant le confinement. Est-ce qu'il faut aujourd'hui compenser cela?
Je suis perplexe. L'idée du décrochage par rapport à d'autres pays, je pense que la chose qu'on peut signaler le plus, c'est le fait qu'on ait, au fil des années, perdu un certain nombre d'éléments de nos outils industriels. Hein. Ça, c'est vraiment ce que tout le monde peut remarquer. Ça se traduit par des fermetures d'établissements, par des... aujourd'hui, beaucoup de produits sont importés. On n'a plus les filières de production. Si, n'importe qui voulant acheter, par exemple, un lave-vaisselle, enfin, je prends ça comme exemple pas forcément immédiat, mais quand vous regardez, il n'y a plus aujourd'hui de site de production en France. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de produits qui nous coûtent en commerce extérieur et qu'on a perdu les compétences, on les mobilise plus pour produire. Donc je pense que le premier décrochage, en tout cas que je vois, il est là. Il est sur toute une série de décisions de localisation des activités qui ont été au détriment des activités productives en France.
Donc pas directement lié à la durée du travail. Si je reviens vers vous, Bertrand Martineau, ce que vous nous expliquez, c'est que augmenter aujourd'hui la durée du travail, ça permettrait aussi de rembourser la dette sans augmenter les impôts. C'est aussi l'un des arguments.
Alors, tout à fait. Encore une fois, la question du redressement auquel nous allons avoir à faire face dans les années qui viennent, pour éviter l'appauvrissement général du pays, puisqu'en fait, ce qui est en train de nous menacer, et d'ailleurs le Premier ministre Édouard Philippe l'avait dit, en fait, ce qui nous menace, c'est finalement... Quand je dis décrochage, c'est pas des paroles totalement abstraites. Vous savez que le pouvoir d'achat donc par tête en France aujourd'hui, le PIB par tête, est dans la moyenne de la zone euro. C'est-à-dire qu'on ne fait plus partie des pays riches. On fait partie de la moyenne de la zone euro. Bon. Et c'est pas le problème du Covid, évidemment. Bon. Donc, la question du décrochage économique, qui se traduit très concrètement par l'appauvrissement du pouvoir d'achat, n'est pas uniquement liée à des questions du temps de travail. Je veux pas avoir une approche caricaturale. Et d'ailleurs, sur la question de la politique industrielle, il y aurait beaucoup à dire. Si ce n'est qu'on a laissé tomber, c'est pas une absence de politique industrielle, c'est qu'on a laissé tomber l'industrie, on l'a surtaxée, notamment par les impôts de production. On a finalement un peu... démantibuler un peu le site de production France, donc bon, c'est facile maintenant de pleurer sur le lait répandu, mais enfin il y a des raisons très profondes, il y a aussi des questions de temps de travail, il y a des questions de coût horaire du travail, voilà, et c'est tout un ensemble de causes qui fait qu'on a décroché, c'est pas uniquement le temps de travail, mais c'est vrai,
mais
aussi,
augmenter la durée du travail, c'est aussi pour soutenir
économie,
l'offre.
Non, mais en économie, vous avez une des rares choses qu'on sait, parce que c'est très loin d'être une science exacte, vous avez deux facteurs de croissance, en fait vous avez ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire tout ce qui est l'organisation, l'innovation, les gains de productivité dus à l'éducation, à l'élévation du niveau général, et puis la quantité de travail. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait en économie. Donc, il est vrai, ces dernières années, la productivité a ralenti, et on peut compenser, parce que l'innovation a été plus faible, on peut compenser en partie par une augmentation du temps de travail. Mais une augmentation qui n'est pas générale, qui est négociée au cas par cas, décentralisée. Il y a des secteurs de l'économie qui ont besoin, sur longue période, de baisser le temps de travail, et d'autres qui ont le besoin de l'augmenter. Donc ce que propose l'Institut Montaigne, c'est certainement pas les 35 heures à l'envers, c'est-à-dire c'est certainement pas de revenir à 39 heures pour tout le monde. Il y a des entreprises qui vivront très bien à 32 heures, puis il y en a d'autres qui doivent être à 42 heures. Voilà, c'est comme ça.
Mais sur un plan théorique, est-ce qu'il faut considérer qu'une augmentation du temps de travail correspond davantage à une politique de l'offre, là où une réduction du temps de travail, à l'inverse, irait du côté d'une politique de la demande, Annie Jolivet?
Alors, si vous m'emmenez du côté des théories, en fait, le temps de travail fait pas partie des éléments très explicités par les théories économiques. Hein. Même du côté des théories plus centrées sur l'économie du travail, finalement, c'est une variable qu'on n'explore pas en termes de variable d'ajustement. L'essentiel des théories porte sur des ajustements, en gros, entre la quantité de travail et le salaire, un peu l'idée qu'on a. Et puis, on a des théories plus larges sur des éléments de croissance, effectivement. Donc voilà, la durée du travail, c'est finalement quelque chose qui a l'air simple, mais qui est beaucoup plus compliqué. D'autant que, enfin, vous l'avez rappelé au tout début, la durée du travail, on peut la regarder sur l'année, on peut la regarder par semaine. Il faut faire la différence entre la durée légale. On se réfère aux 35 heures, mais les 35 heures, finalement, on voit que la moyenne en France, avant la crise, tournait plutôt à 39. Donc on avait des gens qui étaient à temps partiel et d'autres qui, en fait, avec les heures supplémentaires, travaillaient au-dessus de 35 heures. Et puis, on a la durée hebdomadaire et puis on a la durée habituelle qui peut très beaucoup varier d'une semaine à l'autre. L'annualisation du temps de travail fait ça. Donc, en fait, dès qu'on rentre sur la durée du temps de travail, c'est une variable qu'il faut un peu décortiquer secteur par secteur et situation par situation.
Mais en quoi certains économistes, dont vous faites peut-être partie, Annie Jolivet, vous allez nous le dire, considèrent que le fait d'augmenter le temps de travail est finalement contre-productif parce qu'il limite les embauches, voire il facilite les licenciements, et donc finalement ça fait baisser la demande.
Alors dans les accords de performance collective, on on met sur la table toute une série de choses. Donc effectivement, on retrouve la question de l'emploi, la question éventuellement des, enfin la question des ajustements de temps de travail ou d'horaire de travail et les éventuels ajustements de salaire autour de ça. Mais ces accords de performance collective peuvent tout à fait envisager, par exemple, des choses qui ne touchent pas à la durée du travail. Par exemple, enfin il y a eu des exemples, mobiliser par exemple les tout ce qui est mis de côté sur les comptes, les jours de congé, ça peut être un moyen, en fait, de baisser le temps de travail effectif réalisé dans l'entreprise si on est dans un creux d'activité, sans altérer la rémunération des salariés, puisqu'en fait, ils vont d'une certaine façon utiliser leurs jours de congé pour financer la baisse du temps de travail. Derrière ça, la question aussi, c'est de savoir pendant combien de temps on a besoin éventuellement d'ajuster à la baisse un temps de travail par rapport à un creux d'activité.
Et on peut se demander aussi si en cette période de crise, les entreprises ont les moyens de payer les suppléments de salaire entraînés par une hausse du temps de travail, Bertrand Martineau.
Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'en aucun cas, des augmentations de temps de travail doivent être décidées d'en haut. Ce serait une catastrophe économique, bien entendu, de revenir aux 39 heures uniformes. D'ailleurs, pourquoi 39? Pourquoi pas 39,5 ou 41,2? Tout ça n'a strictement aucun sens. Là où je suis d'accord avec Mme Jolivet, c'est que, et d'ailleurs, je le dis dans la note montagne, le droit du travail aujourd'hui permet déjà énormément de souplesse. Et effectivement, beaucoup de salariés ne sont plus aux 35 heures, effectivement. Ce qu'on propose, c'est quelques souplesses supplémentaires qui sont finalement relativement techniques. On pourrait y revenir si vous voulez. Mais l'essentiel en termes d'assouplissement du temps de travail a déjà été fait. La question doit, à mon avis, se poser sur la question des jours de congé et de RTT, donc un sujet sur l'année et non pas à l'intérieur de la semaine. Et puis, évidemment, il y a la question de la retraite. Bon, dit de manière très brutale et un peu plan-plan peut-être, mais on ne peut pas avoir à la fois les 35 heures et 62 ans de départ à la retraite et le pouvoir d'achat des Suisses. Il faut choisir. Donc on peut très bien choisir la voie de l'appauvrissement, etc. Ce qui est facile pour un cadre supérieur, ce qui est peut-être un peu difficile pour un smicard, qui je rappelle est à 1210 euros net par mois. Donc c'est facile évidemment de postuler pour un smicard à 1210. Mais si vous voulez, le problème qui va se poser dans les années qui viennent, il est un peu là finalement. Si on veut vraiment réduire les choses à la plus stricte expression. Il se trouve que sur la durée d'une vie, le Suisse travaille 30% de plus que nous. C'est-à-dire dit autrement, c'est pas tout à fait ça, sur la tranche des personnes en âge de travailler, c'est-à-dire 15-64 ans, les Suisses travaillent 30%, il y a 30% d'heures de plus de travail que nous. Alors et comme par hasard, le PIB par tête des Suisses est à peu près de 30% supérieur au nôtre. Voilà, c'est pas tout à fait un hasard.
C'est compliqué de répondre à cette question de la durée du travail effective. En l'occurrence, Annie Jolivet, il y a énormément d'études différentes. Dans certaines, on estime que les Français travaillent plus que leurs voisins européens. Dans d'autres, au contraire, qu'ils travaillent moins. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet?
Alors, les dernières, enfin, j'ai pas regardé très honnêtement les chiffres. Ce que j'ai en tête, c'est qu'on n'est effectivement pas dans les pays européens qui travaillent le plus. Des pays comme, qui ne fait plus partie maintenant, le Royaume-Uni a un nombre d'heures annuelles moyennes par personne en emploi, hein, on est d'accord, qui est supérieur à la nôtre. L'Allemagne, je me souviens plus, ça doit être un peu au-dessus. Il y a probablement des pays qui sont en dessous. Donc en fait, je pense qu'on
selon Eurostat, on est au-dessus de la moyenne européenne.
Ouais, on est au-dessus, mais on ne doit pas être extrêmement au-dessus.
37,3 heures contre 37,1 heures. C'est assez peu au-dessus.
Enfin, l'exemple de la Suisse me fait quand même une réflexion. C'est-à-dire, on calcule par rapport aux personnes en emploi. Donc, en fait, dans le calcul de cette moyenne, joue aussi le nombre de personnes qui sont en emploi. La Suisse, alors même si aujourd'hui ils s'effraient de la montée faramineuse de leur taux de chômage, bon, nous, ça nous fait plutôt ni chaud ni froid, les chiffres qu'ils annoncent. Donc nous, en France, on a en fait un double problème. On a effectivement peut-être un problème de durée sur l'année, mais il faut voir si on inclut vraiment la durée effective avec toutes les possibilités d'heures supplémentaires qui sont effectivement pratiquées. Et puis par ailleurs, on a effectivement pas mal de personnes qui ne sont pas en emploi et qui font qu'on n'atteint pas effectivement ces 30%, mais ce n'est pas seulement une question de temps de travail.
Bertrand Martineau.
Oui, vous oubliez aussi les départs précoces à la retraite par rapport aux autres.
Voilà. Enfin, les départs précoces à la retraite...
62 ans versus 65, enfin, 66...
62 ans, c'est comme pour les 35 heures, 62 ans. Hein. 62 ans, c'est juste non, c'est un âge minimum.
Non, oui, mais il se trouve par ailleurs que c'est à quelques mois près la durée effective de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent plus tard, mais aussi des gens qui partent plus tôt. Donc en moyenne, on est à peu près 62 ans.
Ce qu'il faut bien comprendre, Bertrand Martineau, c'est que les entreprises peuvent d'ores et déjà modifier la durée du travail grâce à l'accord de performance collective qui leur permet, selon certaines conditions, d'augmenter le temps de travail sans augmenter la rémunération. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cet accord et quels sont ses avantages?
Alors, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déroger à la majoration des heures supplémentaires. C'est-à-dire que quand vous prévoyez des heures supplémentaires, vous devez les majorer de 25%. Mais, en fait, dans un accord de performance collective, vous pouvez augmenter le temps de travail avec les majorations d'heures supplémentaires, mais au passage, vous pouvez diminuer des rémunérations accessoires, par exemple un 13e mois, par exemple des primes d'ancienneté ou des choses comme ça. Et du coup, l'un dans l'autre, tout fait comme si vous pouviez augmenter le temps de travail sans augmenter à due proportion les rémunérations, voire éventuellement à les baisser. Mmh. Voilà, donc effectivement, mais c'est un accord et il faut que les syndicats signent. Ce que j'observe, c'est que beaucoup de syndicats signent en ce moment des accords de performance collective, y compris d'ailleurs la CGT, comme quoi entre ce qui est dit au niveau central et ce qui est dit au niveau des entreprises, il y a parfois une dissonance cognitive.
Ce qui est dit par les syndicats, voilà. Annie Jolivet, c'est que les syndicats sont en quelque sorte placés face à un non-choix puisque l'accord de performance collective est présenté comme un moyen d'éviter les licenciements économiques.
Effectivement, ça pose plusieurs interrogations. La première, c'est de savoir qu'est-ce qui motive cet accord de performance collective. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour résoudre un problème très important de diminution,
de baisse de l'activité, par
alors,
exemple.
Alors, si on augmente la durée du travail, c'est qu'on n'a pas de baisse de l'activité. Mmh. C'est qu'au contraire, on est plutôt en hausse de l'activité. Donc, on a effectivement, avec la période qu'on vient de connaître, on a effectivement des effets de rattrapage d'activité pour des activités qui rencontrent une demande et qui n'ont pas pu produire pendant les moments. Donc, on le trouve dans le bâtiment, on le trouve dans un certain nombre d'activités industrielles lorsque la demande a rebondi à l'issue du confinement. Et puis, on le trouve pour des activités qui se sont développées avec le confinement, comme par exemple les activités de transport de marchandises ou de logistique. Donc, dans ces cas-là, la question, ça peut être de répondre à un besoin immédiat sans avoir à passer par des embauches et dans la certitude, mais pas forcément très forte, que cette suractivité continue. Maintenant, la vraie question que ça pose, c'est est-ce que c'est un bon moyen de régler une activité qui est en développement ? Et de ce point de vue-là, un accord de performance collective devrait plutôt répondre à un point ponctuel de redémarrage de l'activité ou de développement d'une activité rentable. Mmh. Mais absolument pas une augmentation pérenne d'une activité avec des conditions de rémunération un peu diminuées.
Oui, car autrement, on pourrait s'attendre à ce que cela permette la création d'emplois, Bertrand Martineau. Et auquel cas, ce n'est pas le cas, ça ressemble à une occasion manquée.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. La philosophie, entre guillemets, c'est pas de l'accord de performance collectif, c'est pour surmonter un choc, un problème conjoncturel, alors qui peut durer peut-être 2 ou 3 ans. Mais la logique, c'est ça. Alors, je sais qu'il y a des accords qui sont signés à durée indéterminée, la loi ne s'y oppose pas, mais la logique, c'est quand même qu'il y a une clause de retour à meilleure fortune.
C'est prévu pour 5 ans.
Voilà. Non, ça peut être à durée indéterminée, mais en principe, en pratique, beaucoup sont à durée déterminée. La logique, c'est qu'il y ait une clause de revoyure et qu'il y ait un retour à meilleure fortune qui permet de remonter les salaires ou de revenir à la situation d'avant, etc. Mais maintenant, pour revenir sur le lien avec l'emploi, une entreprise qui est sauvée, c'est une entreprise qui détruit pas d'emplois, donc c'est déjà pas mal. Et une entreprise qui est sauvée, c'est une entreprise qui crée des richesses et qui, donc, ailleurs, quelque part dans l'économie, va contribuer à la création d'emplois. Donc, c'est favorable à la création d'emplois. Je rappelle que l'Allemagne, c'est la grande différence qu'on a eue avec l'Allemagne en 2009, je rappelle, c'est que l'Allemagne a absorbé la crise économique par une flexibilité interne très forte des entreprises sur le temps de travail et les rémunérations. Là où la France s'est ajustée, comme d'habitude, sur l'intérim, les CDD, et puis un petit peu sur le cœur, le CDI.
Au-delà de la question purement économique, on peut aussi se demander si les salariés peuvent vraiment travailler plus, alors que le stress, la fatigue au travail n'ont peut-être jamais été aussi importants en ce moment, Annie Jolivet.
Alors,
il y a la question des conséquences sur la santé.
Alors, il y a la question des conséquences, sur la santé, on peut l'envisager comme ça. Ce que j'ai en tête, c'est une des propositions du rapport de l'Institut Montaigne qui consiste à faire passer, par exemple, un maximum à 48 heures ou bien à réduire les temps de pause, enfin les temps de récupération entre deux postes. Il faut savoir qu'en France, depuis un bon moment, on est sur une intensification du travail et, toutes les enquêtes conditions de travail sont cohérentes là-dessus. On a effectivement une montée de l'intensification. Donc la question, si on est par exemple dans une entreprise qui propose un accord de performance collective pour augmenter le temps de travail, la question c'est de savoir ce qui est tenable. Et c'est pas seulement une question de santé des salariés, c'est évidemment aussi une question de santé des salariés, mais quand vous atteignez des longues heures de travail, par exemple, plus votre travail est prenant, stressant, plus vous avez à faire des efforts répétés physiques, par exemple, ou bien à passer d'une tâche à l'autre de façon très rapide, sans avoir de temps un peu pour vous poser ou pour récupérer un peu d'informations, par exemple, plus ça, c'est usant pour l'organisme. Ça peut l'être y compris à des âges relativement jeunes. Donc ça peut être problématique, ça peut se traduire par des problèmes de santé. Problème de santé, ça veut dire qu'en fait, vous avez tablé en tant qu'employeur sur une augmentation de votre main-d'œuvre en heures effectives, et vous allez vous retrouver avec des gens qui vont se retrouver en arrêt parce que vous les avez trop sollicités. Mmh. Donc c'est pas vraiment votre idée.
C'est important ce que vous soulignez, Annie Jolivet, sur la question de l'intensité au travail, parce que vous nous disiez, Bertrand Martineau, que les Français travaillaient moins, par exemple, que les Suisses, mais par contre, en termes de productivité, les Français sont censés être parmi les plus productifs d'Europe, c'est ce que dit Eurostat.
Oui, pas plus que les Suisses, je vous rappelle, les Suisses sont meilleurs aussi en termes de productivité horaire. Mais oui, les Français sont meilleurs parce que... Alors, bon, voilà, alors je ne connais pas d'études qui mettent en relation directe la baisse du temps de travail mécanique des 35 heures avec l'intensification du travail, mais c'est vrai que en gros, on a demandé aux salariés de faire la même chose en 35 heures que ce qu'ils faisaient avant en 39 heures, en gros. Bon, et en partie en gain de productivité. Donc ça a pu contribuer à l'intensification du travail. Alors je crois que ce terme d'intensification est le bon. La question de la souffrance au travail, qui est un sujet très important à mon avis, n'est pas directement liée à la question du temps de travail. C'est-à-dire qu'en fait, la question qui est souvent posée par les sociologues des organisations, c'est le management à la française, qui est sans doute souvent moins efficace, moins performant en termes social et...
Car très vertical, très hiérarchique.
Oui, exactement. Moins de délégation de pouvoir, moins d'autonomie du salarié, etc. Il y a des organisations toxiques. Quand vous viviez dans une organisation toxique du travail, vous pouvez faire un burn-out à 32 heures. Si vous êtes dans un environnement du travail qui est tout à fait agréable, bien processé, quand vous avez les ressources, par exemple, pour faire face aux clients, c'est souvent le problème, les salariés n'ont pas les ressources matérielles, les ressources en termes d'informatique, pour faire face à une demande, au stress, par exemple, de la relation client. Vous pouvez travailler 32 heures ou 30 heures, vous êtes en situation de souffrance au travail. Si au contraire, vous êtes dans une organisation bien structurée, vous pouvez travailler 39 ou 40 heures, vous ne serez pas en burn-out. Il y a des gens qui travaillent 70 heures par semaine qui ne sont pas en burn-out. Et des gens qui peuvent faire un burn-out à 32 heures.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Nous sommes toujours en compagnie des économistes Bertrand Martineau et Annie Jolivet. La baisse du temps de travail maintenant permet-elle de lutter contre le chômage? Pour répondre à cette question, il faut évidemment revenir aux 35 heures.
Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui on a tous échoué sur le chômage. Tous les gouvernements. Pratiquement dans tous les pays industrialisés. On n'a pas le droit de laisser une voie de côté. La réduction de la durée du travail, d'abord, historiquement, ça va dans le bon sens, ça donne du temps libre aux gens, et c'est une chance formidable pour remettre au travail, pour donner de l'espoir. Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. À chaque fois, ils disent « moi, je suis pour la durée du travail si ça permet de créer des emplois ». Si nous engageons cette piste de la durée du travail avec cette détermination, c'est bien parce que nous pensons que nous ne pouvons rien laisser de côté pour faire de l'emploi la priorité numéro un. Si j'en juge les 1500 entreprises qui ont négocié la réduction de la durée du travail cette dernière année, on peut dire que la durée du travail, si elle est bien négociée, si elle prend en compte les besoins des entreprises et aussi bien sûr les souhaits des salariés, ça crée des emplois dans notre pays. Et je crois que c'est comme cela qu'il faut y aller, par la négociation, en prenant en compte les réalités sur le terrain.
Vous avez reconnu Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité. C'était le 10 décembre 1997. Avant d'en venir aux 35 heures, il faut d'abord rappeler, Annie Jolivet, que l'histoire des 19e et 20e siècles est celle de la réduction du temps de travail dans tous les pays industrialisés.
Oui, vous pouvez même aller plus loin avec les années récentes. Effectivement, on a une tendance qu'on qualifie de séculaire à partir de la fin du 19e siècle. En fait, les premiers moments où on voit apparaître les réglementations sur d'abord la durée journalière, puis ensuite, plutôt au tournant du 20e siècle, les premiers congés payés, puis donc l'allongement de ces congés payés, c'est seulement... assez tardivement qu'on voit apparaître la baisse de la durée hebdomadaire du travail, enfin au niveau qu'on atteint aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que, enfin, on a souvent en tête la baisse à 39 heures de 1936, mais en fait, on n'a pas obtenu cette baisse-là au moment où elle a été décidée par la loi. Il a fallu attendre pas mal d'années avant que, en durée effective
après
moyenne,
mai 68. Elle est devenue véritablement effective, cette semaine de 40 heures?
Mais par exemple, quand on va dans les entreprises, peut-être plus maintenant, mais en tout cas, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, il n'était pas rare de rencontrer des gens qui avaient connu les durées de travail à 48 heures. Mmh. Donc, ça n'a pas disparu parce que la durée légale avait diminué. Donc, ça rejoint mon propos sur la durée effective. Il ne faut pas se focaliser sur l'idée que la norme est à 35 heures. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, puis ça a été augmenté après la présidence de M. Sarkozy. On a beaucoup de dispositions qui ont permis d'assouplir, que ce soit par les heures supplémentaires ou par la possibilité de négocier de l'annualisation du temps de travail, par exemple.
Alors, on va y venir, mais d'abord, à quand remonte cette idée que la réduction du temps de travail permet de diminuer le chômage et bénéficie donc à l'ensemble de l'économie, Annie Jolivet? Idée qui a trouvé son expression dans les 35 heures de Martine Aubry.
En France, l'idée a plutôt été proposé dans les années 80-90. C'est ce qui fait qu'on a abouti à la mise en place des 35 heures à la fin des années 90. Maintenant, je ne doute pas qu'il y ait une réflexion antérieure, mais là, vous me posez une colle.
En tout cas, c'est l'idée que le travail est un gâteau défini qu'on se partage. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Martineau?
Il y a assez peu d'économistes, quelle que soit leur obédience, qui considèrent que le travail est un gâteau fixe, avec une quantité fixe qu'il faudrait partager pour créer davantage d'emplois. Bon, il y en a assez peu, j'en connais pas, il doit y en avoir, j'imagine. Je suis pas sûr que le raisonnement de Martine Aubry avait des fondements théoriques extrêmement solides. Ce qu'elle dit, en revanche, il y a une chose qui était vraie, c'est qu'il y avait, c'est justement tout le sujet, une dimension historique à la diminution du temps de travail, séculaire. Pourquoi? Parce qu'on était dans des économies en forte croissance avec des gros gains de productivité. Et du coup, tout naturellement, que ce soit par la lutte sociale, par la négociation ou par la loi, finalement, la force des choses faisait qu'une partie de ces gains de productivité se retrouvait en plus de loisirs et l'autre partie en gains de pouvoir d'achat. Manque de chance, il y a eu un ralentissement très fort de la productivité à partir des années 80 et 90 dans tous les pays occidentaux. Et à partir de 2000 ou début des années 2000, la tendance séculaire à la baisse du temps de travail s'est interrompue. Dans certains pays, elle a un peu augmenté. En France, elle a à peu près stagné, un tout petit peu augmenté avec les allègements sur les heures supplémentaires Sarkozy et El Khomri, etc. Mais en gros, il y a une interruption dans tous les pays occidentaux de la baisse séculaire du temps de travail. C'est pas de la magie, c'est juste que les gains de productivité sont passés en gros de 3-4% dans les périodes 70-80 à aujourd'hui un petit 1% par an, et que donc vous n'avez plus la capacité aujourd'hui, que ce soit par la négociation, la loi ou qui veut, à la fois de faire plus de loisirs et plus de gains de pouvoir d'achat. Il faut choisir. Et j'ai l'impression que nos concitoyens ont plutôt un sujet de pouvoir d'achat. Et du coup, c'est assez cocasse de penser que c'est au moment précisément où la tendance séculaire s'arrêtait, en tout cas provisoirement, que la France a décidé à imposer la réduction autoritaire du temps de travail, alors même que la même Martine Aubry était une chantre de la négociation de la baisse du temps de travail. Et en fait, elle l'a imposé, c'est bien le problème.
Et en même temps, ce qu'on constate, Annie Jolivet, c'est que la mise en place des 35 heures a permis de réduire le chômage. Il y a un certain nombre de travaux qui vont dans ce sens.
Alors, effectivement, il y a eu, je pense que c'est à peu près la seule période de très forte croissance de l'emploi qu'il y a eu depuis les années 70. C'est une sorte d'embellie. On peut pas nier qu'une partie de cette embellie, au moins, soit liée à je vais mettre ça entre guillemets, à un effet mécanique, puisqu'il a fallu embaucher pour compenser la baisse du temps de travail. Ensuite, je ne dirais pas qu'on en est revenu, mais effectivement, il y a pas mal de problèmes qui se posent, et en particulier, on constate bien que les 35 heures appliquées partout ont posé des problèmes énormes de sursollicitation. Alors bon, j'ai en tête l'hôpital, puisque l'hôpital est effectivement aujourd'hui un peu dans le feu de l'action.
Mais est-ce qu'on peut considérer, Annie Jolivet, pour poser la question franchement, que les 35 heures nous montrent que réduire le temps de travail, ça peut être bon pour l'emploi, et ça peut être bon pour lutter contre le chômage?
Ça peut être bon pour lutter contre le chômage à condition qu'on n'en reste pas aux 35 heures. C'est-à-dire 35 heures avec une politique d'investissement, avec une réorientation des activités, je dirais pas encadrée par l'État, mais un peu quand même discutée, quelque chose qui ne dépende pas simplement des conflits entre grands groupes au niveau international. Donc quelque chose qui soit discuté, orienté, soutenu là où c'est nécessaire, oui, ça doit pouvoir y contribuer, mais pas seul.
Bertrand Martineau, sachant qu'au début des années 2000, effectivement, l'emploi a deux fois plus progressé en France qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, par exemple.
Oui, mais enfin, je rappelle le contexte de l'époque, le commerce international augmente de 8% par an. Bon, plus grosse explosion du commerce international et donc des exportations depuis qu'on a des statistiques dans nos pays. Bon. Et puis il y a des pays où le chômage pouvait pas diminuer parce qu'il était déjà, on était déjà au plein emploi, ce qui n'était pas le cas de la France. Bon. En fait, il y a des études contradictoires sur le sujet. Je pense que la chose la plus raisonnable qu'on puisse dire, c'est que cette affaire n'a eu absolument aucun impact, ni à la hausse, ni à la baisse du chômage. Le chômage avant était à peu près de 9% de la population active, le chômage structurel, le cœur du chômage, avant, et il est probablement resté à 9% après. Je pense que si on avait assisté à une baisse durable du chômage, grâce aux 35 heures, je pense que ça se serait vu quelque part dans les chiffres.
Non, en même temps, dès 2003, ces lois Aubry de 98 et 2000, elles ont été largement détricotées.
Oui, d'accord, mais de fait, les entreprises ne s'en sont pas emparées parce que voulez-vous, il y a quand même la question de la majoration des heures supplémentaires, il faut payer plus cher quand même. Donc il y a quand même un problème de coût du travail qui s'est posé à ce moment-là. Bon, ce qu'on peut dire en fait, c'est que probablement sur le chômage, l'effet a été très faible. L'héritage des 35 heures, en fait, c'est pas l'emploi et le chômage. L'héritage des 35 heures, c'est deux choses. C'est un appauvrissement du pouvoir d'achat des personnes. Voilà, parce que ça s'est fait à coup de modération salariale pendant un certain nombre d'années. Et deuxièmement, ça a plombé les finances publiques jusqu'à la fin des temps, puisque je rappelle que une partie de la compensation de la baisse du salaire, pour le maintien de la rémunération du salaire mensuel avec une baisse du temps de travail hebdomadaire, a été compensé pour le tiers à peu près par les finances publiques, par les allègements de charges. Donc en fait, le coût des 35 heures, c'est pas l'emploi et le chômage, c'est plutôt les finances publiques qui ont été plombées définitivement. Ça fait à peu près 15 milliards par an. Je vous assure que pour 15 milliards par an, on peut faire des choses intéressantes en termes d'éducation, d'infrastructure, de baisse d'impôts peut-être même, vous voyez.
Pour le dire grossièrement, Annie Jolivet, ça a finalement profité davantage aux chômeurs, mais ça a plutôt été un inconvénient pour ceux qui avaient déjà un emploi.
Non, pas forcément, puisque vous avez dans les gens qui avaient déjà un emploi, le passage à 35 heures a pu effectivement dégager du temps. Tout dépend comment les choses ont pu se passer. Si vous vous retrouvez, si vous passez à 35 heures, hein, que votre employeur n'embauche personne de plus, que vous vous retrouvez à faire des efforts de productivité pour arriver à tenir, que si quelqu'un est absent, vous êtes obligé de revenir, par exemple, de congé ou de repos, dans ces cas-là, vous gagnez en immédiat sur la durée du travail, mais vous pouvez gagner, perdre en contraintes supplémentaires. Les choses sont bien plus compliquées. En plus, il y a eu pas mal d'études qui ont montré que les gains à cette baisse de la durée du travail n'étaient pas du tout les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Pas non plus les mêmes suivant le niveau de salaire où vous êtes, parce que l'idée que vous allez avoir du temps libre, du temps libre pour faire quoi et avec quels moyens?
Justement, à quoi ont-elles servi ces heures qui ont été libérées? Est-ce qu'elles ont été consacrées aux loisirs et à la famille, comme le souhaitait Martine Aubry, Annie Jolivet?
Eh bien, ce que j'ai en tête des études sur les différences hommes-femmes montre que pour les femmes, c'était plutôt un peu plus de temps consacré aux tâches domestiques et aux enfants, et pour les hommes, c'était un peu plus fréquemment quand même du loisir. Et je ne dis pas que les femmes n'ont pas bénéficié de loisirs.
Et il y a eu aussi une hausse, je crois, du temps de transport, Bertrand Martineau, sur ce à quoi ces heures libérées finalement ont donné lieu.
Mais enfin, c'est très bien d'avoir des heures libérées, mais il faut. Les loisirs, ça coûte. Enfin, donc, si vous n'avez pas de pouvoir d'achat en face, vous pouvez rester toute la journée devant votre télévision. Mais
ça produit aussi les loisirs, Bertrand Martino. Toutes les activités bénévoles.
Il faut une capacité de dépenser quand même avant tout.
Mener une activité bénévole.
Ah non, mais oui, d'accord.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le loisir n'est pas que non productif.
Je rappelle que les bas salaires en France progressent peu et que je vais dire une lapalissade, mais quand vous travaillez 39 heures, je rappelle quand même que 75-80% du salarié sont payés en France sur une base horaire. Bon, donc, comme dirait Monsieur de la Palice, quand vous travaillez 35 heures au lieu de 39, vous perdez 4/39e de pouvoir d'achat. Voilà, c'est aussi bête que ça. D'ailleurs, quand certains syndicalistes réclament le passage à 32 heures, je rappelle que pour un smicard, ça fait 140 euros net de pouvoir d'achat en moins par mois, quand même. Bon, alors peut-être que pour un cadre supérieur ou un grand dirigeant politique, ça représente rien, mais pour un ouvrier au smic, ça représente quand même pas mal. Bon, donc il faut aussi regarder en termes de pouvoir d'achat. Il ne faut pas regarder que la partie temps de travail, quand même. Bon, donc, l'augmentation des loisirs pour des personnes qui sont en grande difficulté financière en termes de pouvoir d'achat, qui ont du mal à payer leur logement, à boucler leur fin de mois, moi, je regarde ça avec un certain étonnement. On a un problème, encore une fois, de pouvoir d'achat dans ce pays. On a un problème d'appauvrissement relatif. Encore une fois, nous ne faisons plus partie, comme dans les années 80, nous ne faisons plus partie des pays les plus riches riches d'Europe, c'est statistique, c'est pas un jugement de valeur. Nous sommes en train de décrocher. Nous sommes pas en train de devenir un pays du tiers-monde. Nous sommes en train tout doucement de devenir un pays intermédiaire. Alors on peut s'en foutre, évidemment, mais un pays intermédiaire, ça veut dire un pays qui soigne moins bien ses personnes, ça veut dire un pays qui éduque moins bien sa jeunesse, ça veut dire un pays qui ne se défend plus en termes de défense nationale, ça veut dire un pays qui investit moins dans l'avenir. C'est quand même un problème. Et je pense que s'il doit y avoir un débat politique sur le sujet, il est là.
Mais alors justement, sur la réduction du temps de travail, Annie Jolivet, est-ce qu'il n'y a pas aussi des arguments de certains économistes qui estiment qu'au contraire, permettre aux gens d'avoir plus de temps et selon l'usage que l'on fait de ce temps, ça peut être une bonne affaire pour l'économie ?
Ça peut effectivement être une bonne affaire pour développer un certain nombre d'activités, mais... Bon, j'avoue que je suis un peu, j'ai l'œil un peu centré quand même sur la période actuelle, puisque on n'est pas dans une période qui va durer quelques mois. On peut très bien avoir des possibilités de relance, enfin de rebond qui soient plus fortes. Hein. Le discours pessimiste est un peu difficile à supporter. Hein, l'idée que tout est perdu, que on va avoir une baisse du PIB qui va durer, que bon, il y a des phénomènes de relance, il y a des possibilités, mais enfin, voilà. Prenons par exemple le temps libre dont on bénéficie aujourd'hui, avec le temps de travail qu'on a. Aujourd'hui, vous avez plein d'activités auxquelles vous pourriez consacrer votre temps libre et qui ne sont pas ouvertes à la consommation. Toutes les activités culturelles aujourd'hui sont fermées. Donc voilà, à court terme en tout cas, à quoi, si on baisse la durée du travail, c'est pas forcément par des activités économiquement stimulantes qu'on va récupérer le coût de la baisse de la durée du travail. Après, en termes de partage, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse la possibilité à des gens qui sont aujourd'hui en chômage partiel ou en chômage, ou même loin de l'activité, hein, aujourd'hui, de revenir, il faudrait voir sur quel type d'emploi, avec quel besoin de formation éventuel. Hein, et moi, je suis absolument pas spécialiste, je n'ai pas suivi cette question-là en détail. Il y a quand même pas mal d'expérimentations sur les territoires zéro chômeur qu'il faudrait peut-être convoquer aussi pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres moyens qui, eux, créent de l'activité utile, économiquement et surtout socialement.
Et puis l'argument en faveur de la diminution du temps de travail était aussi que cette diminution pouvait contribuer à la marche vers l'égalité femmes-hommes. Or, ce que vous nous dites, Annie Jolivet, avec l'usage de ce temps libéré, c'est que finalement, ça n'est pas vraiment le cas.
Non, et puis de toute façon, ça règle pas le problème de base qui est quand même un problème d'égalité salariale, enfin plutôt d'inégalité salariale homme-femme, qui tient aussi à la répartition des femmes sur les emplois et qui tient aussi au fait que les femmes sont bien plus fréquemment que les hommes à temps partiel. Donc toutes ces questions-là, en fait, elles seraient pas réglées par la diminution du temps de travail.
Alors, à propos des propositions qui avaient été formulées par l'Institut Montaigne, Bertrand Martineau, on peut citer par exemple le fait que pour vous, il faudrait inviter les salariés à suivre leur formation hors temps de travail, ça fait partie des propositions ?
Oui, alors ça ne doit pas être une obligation éventuellement, mais on est en train de vivre une véritable révolution du monde de la formation, par la formation à distance. Bon. Ce qui contribue, de même d'ailleurs que la révolution numérique en général, ça contribue à brouiller un petit peu les frontières entre le temps de travail et le hors temps de travail. On le voit aussi avec le télétravail, qui est aussi un effet de la révolution numérique. Donc une réflexion sur le sujet est importante. Aujourd'hui, la loi verrouille assez fortement cette possibilité de faire de la formation hors temps de travail. L'idée, c'est effectivement, par la voie de la négociation, d'explorer de nouvelles possibilités, ce qui permettrait, en fait, de peser un peu moins sur le temps de travail pour la formation. C'est une façon, finalement, comme une autre, d'augmenter le temps de travail sans obérer les capacités de formation et d'évolution professionnelle des salariés.
Annie Jolivet, sur cette idée de faire passer le temps de formation hors du temps de travail ?
Une partie, hein, je n'ai pas dit que ça devait être généralisé, attention.
C'est pareil, tout est toujours une question de mesure, de modalité, d'adaptation. S'il s'agit de faire une formation, par exemple, on a beaucoup de développement aujourd'hui sur la FEST, hein, la formation en situation de travail. Dans ces cas-là, vous comprenez bien qu'il est compliqué de faire une formation de ce type-là hors du temps de travail. Il faut nécessairement que ça se fasse dans le travail. Donc, hors temps de travail, ça peut valoir pour des formations, alors soit des formations qui peuvent être des formations diplômantes par exemple et qui demandent un travail personnel, enfin le CNAM dont je fais partie a longtemps fait ce genre de choses avec les cours du soir. Aujourd'hui, on parle de formation numérique, OK. Maintenant, je suis un peu réservée sur l'espèce de dérive qui consiste à faire ces espèces de micro-formations avec le compte personnel de formation.
Pourquoi cela ?
qui sont des formations qui peuvent être délivrées par Internet, mais voilà, là, derrière, la question, c'est quel est le soutien pédagogique, quel est l'objectif, est-ce qu'on travaille seul ou est-ce qu'il y a des temps de regroupement, enfin, et c'est là où on tombe sur les modalités, sur les objectifs de la formation. S'il s'agit juste de faire de la formation pour de la formation, pourquoi pas en dehors du temps de travail, mais s'il s'agit de faire de la formation avec l'idée à terme que ça aide à une progression professionnelle ou à des compétences vraiment adaptées au travail, là, la disjonction avec le temps de travail peut être extrêmement compliqué. D'autant que ça peut aussi donner à l'employeur l'idée qu'il n'est pas particulièrement impliqué non plus. Il y a des tas de choses qu'il faut vraiment regarder très très finement.
On l'a dit, avec la baisse de l'activité liée à la crise du coronavirus, on assiste depuis quelques mois à une baisse effective de la durée du travail. Est-ce que cela pourrait déboucher sur des changements plus structurels, sachant que si l'on regarde du côté de l'Allemagne, le puissant syndicat IG Metall a obtenu en février 2018 la semaine de 28 heures pour les ouvriers métallurgistes. Bertrand Martineau.
Oui, alors la situation de l'industrie allemande est un peu différente. L'industrie allemande a un positionnement de marché qui est très supérieur à l'industrie française. Elle a une productivité plus forte. Elle bénéficie d'intrants économiques beaucoup moins chers que la France de par ses relations avec un certain nombre de pays d'Europe centrale. C'est un écosystème industriel tout à fait différent. Donc on ne peut pas transposer le modèle. Maintenant, en Allemagne comme ailleurs, on va se poser la question encore une fois du pouvoir d'achat. Je veux dire, sauf à ce que l'Allemagne se mette à faire des gains de productivité extraordinaires, on ne pourra pas baisser tendanciellement, durablement le temps de travail sans avoir un problème au niveau du pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que les Allemands partent de plus haut. L'infirmière allemande, l'aide-soignante allemande est mieux payée, elle travaille plus. Sans doute les hôpitaux allemands sont mieux organisés que les hôpitaux français, c'est possible aussi en termes de... voilà. Donc il y a tout un tas de bonnes raisons pour lesquelles, effectivement, l'Allemagne, on a un peu décroché, c'est la palissade encore, mais c'est vrai, quels que soient les indicateurs, on a malheureusement décroché de l'Allemagne sur beaucoup d'indicateurs macroéconomiques.
Et donc à la question, est-ce qu'il faut travailler moins pour travailler tous, Annie Jolivet, vous répondriez pas vraiment dans la période actuelle que l'on traverse. Est-ce qu'il y aurait eu, dans une période de plus forte croissance économique, une possibilité effectivement de travailler moins pour travailler tous, mais peut-être que ce n'est pas le cas, plus le cas aujourd'hui?
Je vous avoue que je n'avais pas réfléchi spécialement à cette question-là, sous cette forme-là, quand vous m'avez contacté avant de venir. Je vous le redis, je suis perplexe sur des réductions qui seraient générales. Je reprends mon exemple de l'hôpital, mais ça peut valoir aussi. Enfin, je pensais à un secteur qui avait été très sollicité pendant le confinement et qui reste tout le secteur de collecte et de gestion des déchets. Qu'est-ce que ça veut dire de diminuer le temps de travail? Est-ce que ça veut dire qu'on a des embauches compensatrices réelles? Avec éventuellement quelles conséquences économiques pour l'entreprise. Bon, ça peut se discuter. Peut-être qu'il peut y avoir un moyen d'ajuster des rémunérations accessoires ou de réduire certaines formes de coûts. Mais la vraie question, c'est si on réduit le temps de travail et qu'il n'y a pas d'embauche compensatrice, on peut avoir diminué en fait la rémunération des salariés sans qu'il y ait aucun bénéfice collectif pour l'emploi.
Il faut s'attendre plutôt à une reprise en cas, c'est-à-dire une augmentation de la durée de travail pour certaines activités et une diminution pour d'autres.
On va de manière générale vers une diversification du temps de travail, des formes d'emploi. On va vers la diversification, effectivement. On va vers des emplois qui vont travailler beaucoup, des emplois qui vont travailler moins. Donc il faut de la souplesse et certainement pas imposer des choses d'en haut à la mode Martine Aubry, qui d'ailleurs elle-même, vous n'avez pas passé cet extrait, disait qu'elle-même travaillait 80 heures par semaine et manifestement ça lui réussissait plutôt bien.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu sur cette épineuse question du partage du temps de travail. Bertrand Martineau, économiste chercheur à l'Institut Montaigne, Annie Jolivet, économiste du travail, chercheuse au Centre du Travail et de l'Emploi du CNAM. Et c'est l'heure pour nous de retrouver la chronique de notre partenaire du magazine Alternative Économique. Bonjour Aude Martin.
Bonjour Tiphaine et bonjour à tous.
Et je vais vous laisser faire votre chronique dans son ensemble.
Oui Tiphaine, alors je vais vous parler aujourd'hui d'une petite révolution monétaire que la Banque Centrale Américaine vient de déclencher. Alors en fait la Banque Centrale Américaine, qu'on appelle la Fed, ça fait un an qu'elle fait l'effort de remettre à plat toute sa politique et son président Jérôme Powell a livré les conclusions de cette introspection à la fin du mois d'août. Alors ça n'a l'air de rien à première vue, mais en y regardant de près, on trouve deux changements majeurs dans ce travail. Le premier, c'est que la Fed inverse l'ordre de ses priorités. Résultat, l'objectif ultime de la politique américaine n'est plus désormais de stabiliser l'inflation, mais de faire diminuer le chômage. La Banque centrale reste encore malgré tout garante de la stabilité des prix. C'est un objectif qui lui a été assigné par le Congrès. Mais elle y ajoute une autre nouveauté. Au lieu de chercher à maintenir l'inflation en permanence proche de sa cible de 2%, la Fed visera désormais cet objectif uniquement à long terme. Alors concrètement, cela signifie qu'après une période d'inflation faible, comme c'est le cas depuis plusieurs années, elle pourra s'autoriser à la laisser grimper ensuite à 2,5, voire même 3%. Alors en réalité, ça change deux choses. Tout d'abord, en s'autorisant une plus grande flexibilité, la Fed ne sera plus obligée de remonter ses taux d'intérêt et donc de freiner l'accès au crédit au moindre épisode inflationniste. On peut penser par exemple à une brusque augmentation des prix de l'énergie, qu'on sait relativement volatile, ou bien une guerre commerciale. Elle pourra donc justifier de poursuivre plus longtemps son soutien à l'économie si elle estime que c'est nécessaire. Ensuite, en inversant l'ordre de ses priorités, la Fed acte aussi qu'un faible niveau de chômage ne produit plus forcément d'inflation. Et ça, c'est contraire à ce que les économistes ont longtemps cru. Elle s'autorise donc à accentuer ses efforts pour résorber le chômage, et on peut dire que c'est une bonne nouvelle, surtout au vu du contexte actuel. Alors en fait, ça nous dit aussi une chose de l'état de l'économie mondiale qui est assez intéressante. Depuis 40 ans, la principale mission des banques centrales, c'était de contenir une inflation élevée et grimpante. Sauf qu'aujourd'hui, nul besoin d'une analyse très poussée en fait pour voir que le retour de l'inflation n'est pas un risque imminent. Cela est dû à la crise sanitaire, mais pas seulement. Il y a des causes aussi plus structurelles, comme le vieillissement de la population qui tire l'épargne vers le haut, ou l'affaiblissement du pouvoir des syndicats qui limite la progression des salaires. Du coup, les banques centrales se retrouvent aujourd'hui à devoir lutter contre la déflation. C'est quelque chose de tout nouveau pour elles, et c'est ce qui a poussé en réalité la Fed à faire évoluer son mandat récemment. Alors il faut pas se leurrer cependant, ces annonces ne suffiront pas à elles seules à faire revenir l'inflation en un claquement de doigts, notamment parce que la Fed n'a annoncé la création d'aucun nouvel outil pour se donner les moyens de réaliser ses nouveaux objectifs.
Alors est-ce que la Banque Centrale Européenne va faire pareil ?
Alors elle ne s'est pas encore prononcée, mais il serait effectivement logique qu'elle suive la tendance. Sa présidente Christine Lagarde a d'ailleurs fait un pas en ce sens, puisqu'elle a annoncé mercredi lors d'une conférence à Francfort que la révision de l'objectif d'inflation européen était en bonne position sur l'agenda des prochains mois. Il faudra patienter encore un peu cependant pour savoir si les banques centrales auront réussi à maintenir leur crédibilité dans ce nouvel environnement économique ou s'il aura révélé au contraire leur incapacité à s'adapter.
Merci beaucoup Aude Martin, et à la une d'Alter Echo ce mois-ci.
Alors ce mois-ci on a un dossier consacré à la décroissance, alors moins de déplacements, moins de consommation jetable, moins de pétrole et de charbon. On peut être d'accord sur le principe mais malgré tout se demander si c'est possible, si oui à quelles conditions, également comment financer notre protection sociale et notre dette sans croissance. Donc on tente de répondre à tout cela dans le numéro. Au menu également, la baisse des impôts de production, le futur vaccin contre le coronavirus ou encore le bilan économique de Donald Trump. Et c'est à retrouver évidemment chez vos marchands de journaux ou sur le site d'Alternatives économiques.
Merci Aude et bon week-end à vous. Tout de suite, c'est l'heure de Racontez-moi l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Comme chaque vendredi, l'économie part à la rencontre de la fiction. Aujourd'hui, nous ouvrons les pages de Sankia, le roman de Zakhar Prilépine. Il nous emmène sur les pas de Sacha, un jeune militant révolté contre l'oligarchie qui a pris le pouvoir après la chute de l'URSS. Et c'est Monique Slodzian qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'INALCO et spécialiste de la littérature russe contemporaine. Sankia, c'est le deuxième roman de Zakhar Prilépine après Pathologie. Il a été publié en 2006 en Russie. Premier extrait.
Sacha rejoignit les Soyouzniki sans état d'âme, parce que tout le reste à cette époque-là n'avait plus aucun sens. « Il faut travailler », lui disait-on parfois avec mépris. « Je travaille », répondait-il. Et il travaillait effectivement. Parfois il chargeait, d'autres fois il déchargeait. Un jour, il avait travaillé dans une usine. Un autre jour, il avait surveillé, balayé. Toujours consciencieusement. Mais est-ce que c'était important ? Il ne voulait plus discuter avec personne parce que cela ne servait à rien. Il ne le faisait que lorsqu'il souhaitait entendre une nouvelle argumentation. Mais aucune argumentation ne lui convenait jamais. Ce gouvernement infâme, corrompu, stupide, qui détruisait les faibles, avait donné la liberté aux salauds et aux médiocres. Pourquoi fallait-il le supporter ? Pour quelle raison fallait-il vivre avec lui ? Alors qu'à chaque minute, il se trahissait lui-même et trahissait chacun de ses citoyens.
Monique Slodzian, quelle est cette époque qui n'a plus aucun sens, selon les mots de Zakhar Prilépine ? C'est celle qui suit la transition de la Russie vers l'économie de marché ?
Voilà, c'est 1991, puis
Il a 15 ans, 1991. Donc, c'est la transition après une période très mouvementée qui correspond à ce que Solzhenitsyn appelait le désastre de la perestroïka. Et donc, c'est une famille qui est dévastée par les difficultés financières et la perte complète de repères. Donc, la mère et le roman est d'un réalisme, et c'est le passage qu'on vient de lire, l'exprime très bien, d'un réalisme féroce. Féroce parce que c'est la vie qui est détruite, puisque la mère est infirmière, perd son travail, la mère de Zakhar Prilepine, son père qui est professeur sombre dans l'alcoolisme et va mourir bientôt. Il devient l'un de ces adolescents sans père, pauvre et dépossédé de tout, et qui c'est ce qu'il décrit à travers ce héros qui n'est que lui-même, qui n'est autre que lui-même, Sankhya, ce qui veut dire c'est le prénom que donne, le surnom que donne le grand-père, c'est-à-dire ce garnement de Sacha. Voilà, on peut dire donc qu'il s'appelle Sacha et il partage la colère et l'impuissance d'une génération qu'on appelait en Russie BMP. La génération BMP, c'est un sigle comme on aimait du temps de l'Union soviétique. C'est-à-dire que on a tout partagé, on s'est tout approprié sans moi. Voilà, et c'est dont l'expression de la colère d'une génération qui assiste à la prise de pouvoir de milliardaires mafieux.
Sankhya, Monique Slodzian, on l'entendait dans cet extrait, Sankhya rejoint les Soyouzniki. Voilà. Sont les Natbol. Qui sont-ils, ces Natbol?
Alors, voilà. Alors, les Natbol, il faut dire que, donc, voilà, à travers Zakhar, on vit cette épopée, finalement, cette grande odyssée. C'est à la fois littéraire et politique, qui commence dès 1991 avec les premiers meetings anti-libéraux. Et Zakhar, qui a 16 ans, y assiste. Et il rencontre Édouard Limonov. Il adhère à son parti, le Parti national bolchevique, dont il restera membre jusqu'en 2019, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la mort de Limonov.
Et c'est un parti pour qui l'héritage du communisme ne doit pas être entièrement rejeté?
Voilà, c'est ça. Alors ça correspond à une bombe qu'a lancée Prilepine, c'est la lettre à Staline. C'est-à-dire Staline est notre part de gloire et notre part de chagrin. C'est-à-dire c'est essayer de réintégrer l'histoire de l'Union soviétique dans l'histoire russe.
Et alors, ce qui se traduit ici dans le roman de Zakhar Prilepine par une mobilisation, un militantisme de Sankhya et de ses amis, et ce qu'il reproche aux démocrates qui ont exercé cette thérapie de choc en 1991, c'est d'avoir laissé de côté les classes populaires et il cible en particulier les modes de vie petits bourgeois de la classe moyenne éduquée, avide de consommation.
Absolument. Alors absolument, c'est le roman a paru en 2006 après, comme vous l'avez dit, Pathologie, et c'est un roman culte. C'est celui qui va réveiller, c'est un coup de tonnerre dans le ciel de l'opinion publique en Russie, ce roman qui raconte une jeunesse révoltée, marginale, qui ne peut être que révolutionnaire dans un paysage dévasté. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils sont révolutionnaires parce qu'on ne peut pas être autre chose.
Révolutionnaire, mais pas marxiste, Monique Slodzian.
Pas marxiste parce qu'ils sont léninistes plus que marxistes.
Et puis parce que Lénine le travail tient une place assez peu importante chez Zakhar Prilepine.
Le
travail.
Oui, alors bien sûr. Alors chez Zakhar Prilepine, qui est très influencé, comme dans le roman Sankhya, par le maître à penser qui est Kostienko, qui en fait Limonov, qui est un héros magnifique, qui a roulé sa bosse aux États-Unis et en France avant de revenir en Russie.
Le héros du roman d'Emmanuel Carrère.
Oui, le héros du roman, mais surtout l'auteur de plusieurs livres qui ont été traduits en français à leur époque, chez Albin Michel, qui est un personnage tout à fait fascinant et tout à fait central dans l'histoire de la littérature russe actuelle. Donc il a disparu au printemps dernier. Et je pense que pour la génération, puisqu'il s'agit d'une génération de Prilipine, c'est vraiment le message message de Limonov qui essaie de réconcilier ce qu'on appelle les rouges bruns, réconcilier ces deux extrémités de la culture et de l'histoire russe que sont les traditions russes avec même la dimension militaire de la Russie impériale et l'idée communiste.
Vous pensez que ce dans quoi vous vous êtes lancé, c'est bien, juste ? C'est bien et juste, répondit Sacha. Bezletov haussa les épaules. Et le sens de tout ça ? C'est une très longue histoire. Elle est courte, au contraire. Au fond, ce que vous demandez, c'est une idée nationale. Là, il a montré ce qu'il avait dans le ventre, se dit rapidement Sacha qui l'interrompit aussitôt. Nous ne demandons pas. Je ne demande rien. Je suis russe, c'est suffisant. Je n'ai besoin d'aucune idée. Je suis russe, se moqua d'un air sombre Bezletov. Et ceux qui ne sont pas russes, qu'est-ce que vous en faites ? Écoutez, Alexei Konstantinovitch, ne déformez pas mes paroles. Personne n'a l'intention de se débarrasser de ceux qui ne sont pas russes, et vous le savez parfaitement. Alors pourquoi, Sacha, tu pars bille en tête en disant « je suis russe » ? Voyez-vous ça, se dit de nouveau Sacha. Il me tutoie alors que moi... Je ne pars pas bille en tête, répondit-il. J'ai dit que je n'avais besoin d'aucune idée nationale. Vous comprenez ? Je n'ai besoin d'aucun principe esthétique ou moral pour aimer ma mère ou me souvenir de mon père.
Monique Slodzian, que vous inspire cet extrait ? Que nous dit-il de la quête de l'esprit russe chez Sakhar Prilepine et les écrivains de sa génération ?
Oui, alors, peut-être d'abord, on peut dire que c'est la fidélité de Prilepine et de cette génération aux idées des années 90. Puisque le parti, le nouveau parti que Prilepine a créé l'année dernière, s'appelle Pour la justice. Et pour la vérité, enfin pour la justice en Russie, il y a une ambiguïté dans le terme, mais c'est vraiment la suite logique conséquente de cette immense insurrection morale. Oui. Et donc c'est 2006 le bouquin, c'est donc est-ce que vous venez de lire, c'est la sortie de l'hiver russe qu'on avait cru éternel dans les années 90. Et donc le réveil des jeunes gens qui ne veulent pas rester sur le bord du chemin et donc qui vont par leur la fraternité, le réveil des valeurs russes devenir les porte-voix d'une génération qui était plongée dans le noir.
Effectivement.
Et c'est ce qu'on appelle le tournant des années zéro, c'est-à-dire les années 2000.
Voilà, après la forte crise économique qui a suivi la transition vers l'économie de marché, le PIB par habitant dépasse son niveau de 1991 que 15 ans plus tard, en cette année oui. 2006 justement. Et alors, ce qui habite aussi l'œuvre de Prilepine, c'est la hantise de la survie du peuple russe. Il décrit notamment les menaces qui pèsent sur les villes moyennes
voilà.
de Russie.
Absolument. C'est garantir l'intégrité du territoire, renouveler la population, retrouver la Russie qu'on leur a volée. Ce sont les tâches supérieures d'un patriote russe. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour nous qui sommes dans une autre culture et dans une autre histoire. Et donc, jusqu'au bout, quelles que soient les attaques dont il sera l'objet, puisqu'en un sens, Sakhar Prilepine, qui est le porte-voix d'une génération, est aussi un héros maudit qui attire la foudre. Et qui attire les critiques parce que il tient d'une manière âpre et totalement déterminée à cette mission de garantir l'intégrité du territoire, renouveler la population et retrouver la Russie éternelle d'une certaine manière.
Merci beaucoup Monique Slodzian. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Les enragés de la jeune littérature russe » publié aux éditions de La Différence. Merci d'avoir été à l'écoute, c'est la fin d'Entendez-vous l'écho. On se retrouve lundi pour une émission consacrée à la riposte de l'Europe face à la puissance économique chinoise. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.